Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Une télé de l'offre, c'est ce que tout le monde attend. Si t'as pas ta dose de surprise tous les jours, t'es fade.
Une bonne télé, ce sont forcément de bons programmes. Ou au moins des programmes capables de fédérer un large public. Ce qui est de moins en moins le cas. En 10 ans, les audiences des chaînes historiques n'ont cessé de baisser, se déportant sur la TNT ou sur rien du tout, notamment chez les jeunes. On y reviendra plus tard. Mais l'audience est-elle un critère pertinent quand on parle de service public ? Et quid de l'argent ? Parce que quand même, pour faire de bons programmes, il faut de l'argent. Commençons par le début. C'est quoi un bon programme de service public ? Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? On a posé ces questions à Christophe Nick, auteur de documentaires et aussi de projets web ambitieux.
Il y a des magazines qu'on va appeler récurrents, un peu grandes marques, type Rendez-vous Inter Inconnu, Antoine de Maximy, J'irai dormir chez vous, même Tout Nu, que je trouve formidable. Voilà, c'est aussi de la grande télé de service public où on apprend aux gens à voyager, on apprend à regarder, on apprend à découvrir, tout en étant ludique et décomplexé. Moi, je trouve ça vraiment des réussites. Donc, il y a quand même quelques domaines comme ça qui sont des valeurs essentielles du service public. Maintenant, il y a des trucs où ça pêche. Voilà, là où ça pêche beaucoup, c'est en termes de culture. Qu'est-ce que c'est que la culture ? Et la culture patrimoniale et la culture vivante, là, on est dans un trou. Là, il y a un manque. Compliqué, hein, parce que ça suppose des écritures, ça suppose des regards, ça suppose du coup des changements générationnels, ça suppose, et ça c'est une des grandes difficultés du service public, ça faut pas se le cacher, comment se renouveler et renouveler les gens qui font la télé, c'est super compliqué, il y a pas de solution miracle en termes de DRH, tout ça, mais en tout cas le défi est là, c'est-à-dire de se rendre compte que dans les années 2010, on a dû attendre, et on continue à attendre aussi longtemps que nous dans les années 60-70 que le rock passe à la télé, c'est invraisemblable, là le rap, on désespère, c'est les plus grosses ventes de 10, c'est ce qu'il y a de plus popu, c'est hyper large, mais ça perturbe les plus de 60 ans, donc ça reste coincé. Du coup, le vrai défi, il n'est pas dans la créativité d'une scène qui est là et qui est super saine, scène au sens sain, mais dans ce problème dans lequel le service public est enferré, en gros toutes les télés, mais c'est criant sur le service public, c'est-à-dire d'avoir depuis 20 ans misé sur une audience sûre, qui l'a fait vieillir et qui la rend maintenant incompatible avec l'évolution de la société. Ça, c'est terrible.
Luc Herrmann, le patron de la société de production Première Ligne, a identifié un point faible de l'audiovisuel public, le manque de fantaisie dans la fiction française.
Il faut reconnaître, et ce n'est pas pour être gentil avec France Télévisions, qui est un de nos gros clients, c'est une petite entreprise privée, Première Ligne, c'est une petite boutique privée, et notre plus gros client, c'est France Télévisions et Arte. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de documentaires, ils ne sont pas diffusés si tard. Il y a quand même pas mal de fictions, peut-être pas assez audacieuses, en tout cas, il y a vraiment de la place pour qu'il y ait des fictions un peu plus audacieuses. Donc c'est peut-être ça. Ce qui manque peut-être, c'est un peu plus d'audace dans les fictions. On sent que la mécanique d'écriture, de fiction reste assez vieille école, qu'il y a eu quelques choses intéressantes sur France 2, peu sur France 3. Je pense que les chaînes publiques pourraient prendre beaucoup plus de risques en fiction, comme ils en prennent dans le documentaire ou dans l'investigation, pour tester de nouvelles écritures. En tout cas, allez, on peut le dire, avec des réalisateurs et avec des scénaristes plus jeunes.
À l'heure des formatages, Christophe Nick rappelle l'importance des programmes dans la manière de raconter le monde qui nous entoure, même quand il s'agit de Plus belle la vie. Oui, oui.
Si tu prends une fiction, t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas mon truc, mais ça existe, c'est Plus belle la vie. Elle a mis un an, plus d'un an à s'installer. À TF1, elle n'aurait pas tenu une saison. Ouais, en décembre, c'était fini. Et pourtant, on sait que c'est devenu un des principaux véhicules aujourd'hui, cette émission, pour aborder des problèmes de société compliqués de façon cool. De l'homosexualité, mon fils fume des pétards, le divorce compliqué, des violences intraconjugales, tout ça est traité dans ce soap. Ça décoince. Voilà, donc c'est nécessaire. Ça, c'est vraiment de la fiction popu de service public. Encore une fois, c'est pas mon truc, mais il faut de ça. T'as envie de la sentir, cette planète. Et la télé, c'est l'instrument génial pour ça. Et on est encore dans une représentation imaginer de ce que les Français attendent et de leur servir. Alors que franchement, je pense qu'une télé de l'offre, c'est ce que tout le monde attend. Des surprises. Un mec comme De Greff à Canal l'avait parfaitement compris. Si t'as pas ta dose de surprise tous les jours, t'es fade. Voilà. Donc c'est un mélange de plein de choses, hein, de spectacles, d'infos. C'est pas du tout facile à tenir. Hein. Personne à la science infuse là-dedans.
Nagui est souvent montré comme l'exemple d'une télé facile faite de jeux destinés à gratter de la pub. Luc Herman défend ce type d'émission qui amène du financement et qui est donc une source d'argent pour des programmes moins faciles.
Il y a un procès un peu facile qui est fait sur « Ouais, France Télévisions ne devrait pas diffuser de jeux en fin d'après-midi. Appelons un chat un chat, il faut faire rentrer un peu d'argent. » Et la publicité ayant été interrompue très brutalement d'une façon tellement unilatérale par Nicolas Sarkozy qui décide un peu du jour au lendemain en se réveillant un matin « Il faut que je fasse une annonce devant les journalistes. » Il se trouve que j'étais moi présent ce jour des vœux à la presse de Nicolas Sarkozy, où il reçoit tous les journalistes, où il annonce contre toute attente la suppression de la publicité après 20h sur le service public. Mais quelle idée saugrenue. Donc oui, il y a des jeux. Oui, on peut ne pas aimer Nagui qui fait un jeu musical avant le 20h. Il se trouve que ça marche très bien en audience et que ça fait rentrer un peu de sous de publicité. Moi, ça ne me choque pas du tout. Voilà, il y a un public pour regarder ce type de programme. Ce n'est pas infamant. On parle beaucoup de la BBC, par exemple, qui est une très grande chaîne en Angleterre, qu'on met beaucoup en avant, mais il se trouve que The Voice, en France, qui a acheté ce concept, c'est TF1. En Angleterre, c'est BBC One. Donc je pense que le procès est un peu facile contre France Télévisions de dire « Oh là là, vous n'avez pas de mission assez éducative, vous ne diffusez pas assez de théâtre en prime time. » C'est sûr, ils ne diffusent pas assez de théâtre en prime time, mais ils en diffusent un peu quand même.
On en vient à la question de l'audience. À quoi doit servir l'audience pour le service public? Est-ce un frein à la créativité? La télé publique doit-elle rester un média de masse? Christophe Nick a un avis sur ces questions. Pour lui, il faut d'abord fédérer.
L'audience, c'est est-ce que ce que je vous propose vous intéresse? D'abord. Et c'est évident qu'il y a des programmes formidables, mais quand ils font des audiences qui sont à la limite d'une dizaine de milliers de personnes, on est sur du média de niche. Le but de la télé est de fédérer. Et pas juste de présenter, elle est aussi de rassembler. C'est un objectif majeur, très très important aujourd'hui dans le tous ensemble. Il y a des programmes qui mettent du temps. Ça, il faut laisser le temps. Mais on peut pas se dire qu'un média de masse, il est aussi fait pour des toutes petites niches ou des élites. Vraiment, l'audience, elle est pénible à encaisser quand tu ne regardes que ça. Voilà. Le vrai truc, c'est ce que disaient des groupes. L'audience, elle vient d'abord de l'image. Il faut d'abord créer un environnement qui fait que, waouh, quand je regarde France Télé, eh ben, j'ai pas perdu mon temps. Voilà. Et donc, ça peut être occasionnel, etc. Mais tu sais qu'il y a un rendez-vous qui est promis. Et petit à petit, tu vas pouvoir faire des coups qui vont rassembler et qui vont fidéliser. C'est très, très, très long. Mais évidemment, l'audience, c'est pas l'audience ne se gagne pas par des coups, elle se gagne par une image. Et ce Et je pense que dans notre époque-là, l'image du service public, elle est hyper forte. Les gens ont envie de contre-pouvoir, de recul, de curiosité, de présentation des choses, d'un autre ton, de quelque chose de plus cool, hein, de regard. Pas tout le temps la peur des autres, du monde et tout. Et donc de comprendre, de décrypter. Enfin, tous ces trucs-là sont la source de médias absolument prodigieux. Et c'est vrai que ce réflexe de dire « Ah, là, t'as eu un petit creux, là, c'est pas terrible, là, c'est pénible. »
À la télé aujourd'hui, les études sont reines pour essayer de ne pas laisser de place au hasard quand on lance un programme. On a demandé à Luc Herman à qui on doit faire confiance, les créatifs ou le marketing. On se doutait un peu de sa réponse.
J'ai longtemps travaillé à Canal+, pendant 18 ans. Canal+, a été créé par des saltimbanques. Et puis, petit à petit, avec des gens de très grands talents, Alain De Greff à la direction des programmes, Pierre Lescure pour impulser, après une grande expérience de journaliste, pour impulser une chaîne extrêmement audacieuse, on a vu arriver, moi j'y ai passé 18 ans, des gens qui venaient plutôt d'HEC, des gens qui venaient plutôt du marketing. Et quelquefois, j'ai des anecdotes assez rigolotes où on nous a dit « mais ça ne marchera pas, ce conducteur de l'émission que vous allez mettre en place est trop anxiogène ». C'est la première fois que j'ai entendu ce mot « anxiogène » utilisé par des gens du marketing, et sauf que ça a été notre meilleure audience. Voilà, on nous a dit, tiens, un jour, parce que c'était une émission qui allait passer début janvier, oh là là, les gens, j'aime beaucoup quand on dit les gens, c'est ridicule, les gens vont sortir des vacances de Noël, oh là là, votre sommaire est un peu anxiogène, sur une émission d'investigation que nous co-dirigeons avec Paul Morera sur Canal+, et donc ce monsieur du marketing, très malin, en même temps très cultivé, nous a dit, ça ne marchera pas. Ça a été notre meilleure audience de la saison. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux créatifs, il faut faire confiance aux saltimbanques, et l'intelligence des chaînes, et je l'espère du service public à venir, va être de laisser vraiment les créatifs travailler sereinement, sans leur mettre trop de pression. Et je pense que cet excès de pression sur certaines chaînes privées, ou peut-être dans certains services, nous par chance tout va bien avec France 2, mais dans certains services des grandes chaînes publiques, cet excès de pression sur il faut de l'audience demain matin, des résultats d'audience demain matin, parce que malheureusement les responsables de chaînes ont un tout petit peu une courte vue, parce que leur job peut être menacé, donc ils travaillent à très court terme. Je pense que trop de pression sur oh là là, est-ce qu'on prend des risques juridiques, oh là là, est-ce qu'on teste vraiment, mais il faut tester. Et alors il faut être assez véloce pour quand on s'est planté, le reconnaître très rapidement et pas continuer à foncer dans le mur. En revanche, cet excès de pression qui crée énormément de malheur dans les équipes fait de la mauvaise télévision. Et ensuite, on n'est pas regardé.
Forcément, tout cela coûte cher. Comment finance-t-on la télé publique entre la publicité et la redevance? En Suisse, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, la redevance qui finance l'audiovisuel public a été menacée par un référendum d'initiative populaire, qui heureusement a échoué. Mais l'idée pourrait faire son chemin en France et en Europe. Pour Christophe Nick, il faut augmenter la redevance et il rappelle pourquoi.
Pour résoudre ces différentes contradictions, celle du renouvellement des âges à l'intérieur de l'entreprise, celle de la prise en compte de la culture et celle du numérique, c'est évidemment d'abord une question de budget. Or, là, et je pense que c'est la plus énorme des difficultés, on a, avec le Portugal, la plus petite redevance de toute l'Europe. C'est sidérant. Voilà, 137 euros, il y a encore plein de gens pour râler là-dessus. La couve du Figaro Magazine il y a une semaine, bon, etc. Alors qu'en fait, c'est quoi? Les Britanniques les plus ultra-libéraux, elle est à plus de 185 euros. En Allemagne, elle est à 235 euros. En Suisse et dans les pays nordiques, c'est au-dessus de 300, voire 400 euros. Donc les chaînes ont de quoi fabriquer des programmes. Là, on gère une pénurie depuis des années. Parce que tous les gouvernements ont trouvé, c'est un peu comme la vignette, quoi, qu'augmenter la redevance, c'était mal vu en France. Et donc, il n'y a pas une politique de service public assumée de l'audiovisuel. On y fixe de tout le temps des objectifs quasi inatteignables avec ces montants-là. Alors du coup, ça fait un écosystème en crise, en permanence, et qui doit arbitrer sur des priorités. Bon, on a lâché le sport au privé. Est-ce bien? J'en suis pas sûr du tout. Voilà, c'est d'accompagner la commercialisation du sport, je ne suis pas sûr. On a abandonné des tas de grands trucs populaires de type télécrochet, The Voice et tout. C'est quelque chose de très fédérant, mais c'est horriblement cher, donc on ne le fait pas. Il est urgent de se dire le service public n'a pas les moyens de ses missions.
Pour Luc Herman, s'il faut augmenter la redevance, il faut surtout mieux la calculer, en tenant compte des écrans sur lesquels on regarde aujourd'hui la télévision.
Évidemment que pour un service public fort, il faut une redevance un peu plus forte. Et l'idée est toute simple, mais le gouvernement est enfin en train de s'en emparer. Sous la présidence Hollande, ça n'a jamais évolué, malheureusement. Elle n'est pas d'augmenter pour tout le monde la redevance. Elle est de l'indexer sur les revenus, de l'indexer sur le nombre de personnes dans le foyer, et pas uniquement sur un unique téléviseur. On sait que les téléspectateurs regardent évidemment le service public sur plein d'écrans différents.
Prochain épisode, il faut sauver le soldat info.
Binge audio.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.